Le 30 juin 2012, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription consacre d'abord l'empreinte exceptionnelle, laissée par 3 siècles d'exploitation minière sur les paysages. Cette distinction, c'est ensuite l'aboutissement de 10 années de mobilisation, un grand moment de fierté et d'émotion pour les habitants. Catherine Aumiel, directrice de l'association Bassin Minier UNESCO, a travaillé 10 ans sur ce dossier. Nous la retrouvons à l'issue de la projection d'un documentaire sur cette inscription historique dont elle a vécu toutes les étapes. Catherine Aumiel, vous êtes chargée de mission au bassin minier, c'est ça ?
À la mission bassin minier, oui, qui est chargée maintenant de gérer le label du bassin minier inscrit au patrimoine mondial.
Donc on est à un an de cette reconnaissance qui a fait, bondir toutes les personnes qui ont soutenu ce dossier, bondir de joie. Et pour fêter cela, vous avez organisé une quinzaine de jours de fête avec des événements dans pas mal de sites de cette région du bassin minier.
Alors en fait, l'idée est venue en décembre, janvier, où les offices de tourisme du territoire sont venus nous voir en disant bah, « Nous, pour le premier anniversaire, on aimerait bien travailler autour de l'idée de 15 jours, plutôt que de faire une soirée le 30 juin, hein, puisqu'on a été inscrit le 30 juin 2012, on aimerait bien travailler sur une quinzaine où on mettrait en scène le patrimoine et la culture minière. » Donc on a dit banco, autour des offices de tourisme, on a réuni les agglomérations, l'ensemble des partenaires, des acteurs avec qui on travaille, le centre historique minier, culture, enfin d'autres, quoi, tous les acteurs avec qui on travaille. Puis on a dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on est capable de construire sur 15 jours et ça a pris des formes extrêmement différentes, cette programmation. Il y a des visites, il y a des expositions, il y a des fêtes comme la Ducasse qui a eu lieu dimanche dernier à Wallers, la Ducasse des Mines comme dans les années 30. Il y a eu des feux d'artifice, il y a eu des fêtes, enfin ça a pris des formes très diverses et qui sont assez révélatrices finalement, et des acteurs qui font vivre ce patrimoine au quotidien et de la vitalité de cette culture et de cette fierté de ce patrimoine encore sur le territoire.
Alors aujourd'hui, on est à Culture Commune où il y a un événement, c'est la présentation d'un long métrage, un documentaire sur justement cette inscription, cette bataille pour que le dossier arrive sur la pile du haut.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un documentaire qui est produit par Télé Nord-Pas-de-Calais, qui est un producteur régional, qui est venu nous voir en janvier en disant, ben voilà, notre métier, c'est de produire des documentaires sur les aventures du territoire et sur ce territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. On voudrait faire quelque chose sur l'inscription. Ils nous ont proposé un réalisateur qui a fait un boulot remarquable, puisqu'il a eu sa commande fin mars et son challenge, si je puis dire, c'était de sortir le film pour le premier anniversaire, qu'on puisse faire une avant-première dans le cadre du premier anniversaire. Alors c'est un premier volet, il y aura un deuxième volet plus sur l'empreinte de la mine sur ce territoire, et c'est un film dont on espère qu'il aura une vie assez longue et qui servira de support aussi pour faire ce qu'on appelle, d'un mot un peu pompeux, la médiation, mais avec les habitants du territoire et surtout les jeunes publics, pour qu'ils se réapproprient cette histoire et leur cadre de vie finalement.
Donc ce film raconte bien le cheminement, hein, plus de 10 ans pour arriver à convaincre, déjà à ce que la France s'empare du dossier pour le transmettre. C'est parfois désespérant pour une équipe. Vous avez tenu 10 ans comme ça ?
Oui, on a tenu 10 ans d'abord parce qu'il y a eu des étapes. Hein. C'est vrai que la première étape, ça a été de convaincre la France et notamment le ministère de la Culture que le patrimoine industriel était un patrimoine qui méritait inscription au patrimoine mondial. C'est vrai dans des pays anglo-saxons, l'Angleterre depuis longtemps met en scène son patrimoine industriel. La France avait du mal à considérer le patrimoine industriel comme du patrimoine culturel et noble. Donc ça a été la première bataille. Et puis après, oui, se sont enchaînées les exigences et des ministère et de l'UNESCO, hein, puisque c'était un grand territoire, donc il y avait des risques aussi, hein, puisqu'il y a des exigences aussi de protection et de valorisation dans la durée. L'UNESCO dit, bon bah d'accord, moi je veux bien vous inscrire au patrimoine mondial, mais votre patrimoine dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc il fallait avoir des engagements des acteurs du territoire, et ça prend du temps, ça pouvait pas se faire en 5 minutes, donc c'est sûr que 10 ans ça a été long, mais en même temps je pense que c'était nécessaire à la fois pour obtenir cette adhésion du territoire, et puis pour construire les bases de la suite. Et donc, oui, 10 ans, ça a été long, mais au final, on est assez fiers. Et je pense que les habitants sont fiers de leur territoire.
Donc, vous avez vécu ce moment à l'UNESCO, à Saint-Pétersbourg, c'est ça ?
Oui, oui.
Vous-même, là-bas, comment ça s'est passé ? Un moment quand même émouvant. Je vous ai vu dans le film, hein ? Vous pleuriez presque, hein ?
Oui, oui, ça a été un moment très émouvant. Et en plus, il y a eu une attente. Donc, puisqu'en fait, on est arrivé, nous, le mardi à Saint-Pétersbourg. Alors, la session dure 15 jours, mais les examens des candidatures sont concentrés sur 3-4 jours. Donc, ça démarrait le vendredi. Et dans l'ordre des passages, on devait passer le vendredi après-midi. Donc, dès le vendredi matin, on était prêts, quoi. Et puis, voilà, l'ordre est quelquefois bousculé pour des questions de protocole, des ministres qui doivent repartir. Donc, voilà, donc des pays négocient de passer avant, voilà. Donc on apprend le vendredi en fin de matinée que bah non, ça sera pas vendredi après-midi, mais probablement samedi matin. Donc bon, voilà, c'est tout, une nuit de plus à attendre. Et puis le samedi, on arrive, on doit passer en fin de matinée, et puis l'ordre est encore rebousculé, et on est passé à 7h du soir. Donc le dernier dossier avant la fermeture de la session fermait tous les soirs à 7h. Et donc il a fallu attendre encore une journée d'anxiété aussi, parce qu'on attend, moi j'arrêtais pas de rentrer, de sortir, c'est un moment un peu... Même si on sait qu'on a de bonnes chances, il n'empêche que tant que le marteau n'est pas tombé, ça reste. Puis alors après, ça a été... Alors comme en plus on était les derniers, du coup, a pu se déchaîner un peu dans l'hémicycle, ce qui ne se fait pas forcément d'habitude, puisqu'il faut enchaîner sur les dossiers suivants. Là, du coup, les gens ont pu se lever, venir nous embrasser, enfin, c'était très sympa. Et puis après, on a enchaîné, en fait, sur... C'était le 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial l'année dernière, puisqu'elle date de 72. Et donc, il y avait une grande fête organisée à Saint-Pétersbourg en l'honneur des 40 ans. Donc c'était juste après. Donc on a à peine eu le temps de réfléchir, on a été embarqué avec tout le monde pour aller à cette fameuse fête. Et comme on était le dernier dossier, puis un dossier un peu atypique, beaucoup de gens sont venus nous voir pour dire à quel point ils avaient été touchés, etc. Donc on avait un peu l'impression que la fête, c'était pour nous, quoi. Et pour le territoire, donc c'était assez sympa.
Donc je suppose que dans les personnes qui étaient présentes dans ce lieu, certains n'ont pas eu leur dossier validé, hein. Est-ce qu'ils vous en ont voulu ?
Non, parce que c'est pas une compétition, c'est-à-dire que c'est jamais un dossier contre un autre. Donc là, par exemple, à Saint-Pétersbourg, il y avait 42 dossiers qui étaient examinés. Si le comité du patrimoine mondial estime que les 42 dossiers méritent inscription, les 42 seront inscrits. Donc c'est absolument pas une compétition au niveau international, c'est pas un dossier comme un autre, c'est uniquement jugé sur la qualité des dossiers. Donc non, il y a personne qui nous en a voulu.
Alors, on le voit bien dans le film, en fait, la proposition est faite au jury, hein, de dire est-ce que ce dossier a des défauts, et là, il y avait zéro défaut, c'est ça, le zéro défaut, c'est grâce à vous.
Non, non, c'est grâce à tous les acteurs du territoire. On était une toute petite équipe à BMU, et si on a réussi à construire ce dossier, c'est bien parce qu'énormément d'acteurs se sont impliqués autour de nous. On n'aurait jamais réussi, vous pensez bien, à quatre, à construire une candidature pareille. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est ça aussi qui prend du temps, c'est d'entraîner les gens dans l'aventure et de les amener à travailler avec nous, en fait, sur la construction de ce dossier.
Donc le film montre bien aussi que vous étiez entouré d'experts.
Oui.
C'est vous qui les avez sélectionnés ?
Alors c'est venu assez vite, ça, sur les conseils de Jean-Louis Luxon, qui était le président d'ICOMOS International à l'époque. ICOMOS International, c'est les experts en patrimoine, le réseau des experts en patrimoine au niveau mondial, qui nous a dit très vite, confrontez vos hypothèses, Marie en parlait dans le film, à des experts industriels européens. Invitez-les, travaillez quelques jours avec eux, vérifiez que vos hypothèses sur votre valeur exceptionnelle et universelle, qui est le cœur d'un dossier de candidature au patrimoine mondial, sont valides. Donc c'est ce qu'on a fait, on a invité 8 experts européens, donc des Anglais, des Allemands, des Belges, des Italiens, enfin ils étaient 8, et pendant 3 jours, on a travaillé avec eux sur les fondamentaux, finalement, de ce dossier et de cette inscription, et ce qui est difficile, des fois, à faire comprendre aux acteurs du territoire, c'est que ce dossier de candidature, finalement, n'est qu'une des facettes de cette histoire, et la facette qui permet, au niveau international, de juger si on est exceptionnel ou universel. Il n'embrasse pas toute l'histoire du territoire, il n'embrasse pas toutes les initiatives, tous les acteurs du territoire, c'est pas possible. On est obligé de le construire par rapport à une loupe et un regard qui va être le regard de l'international sur la candidature.
Voilà, donc un an après, votre mission, elle est parvenue à ses fins. Qu'est-ce que votre équipe est devenue ?
Alors, l'association BMU a fusionné avec la mission Bassin Minier, où je travaille maintenant, qui est le gestionnaire officiel du label Patrimoine Mondial. Donc, la mission Bassin Minier, on a beaucoup travaillé avec eux sur la construction du dossier de candidature. C'est comme une équipe d'ingénierie à l'échelle du Bassin Minier, qui travaille sur tous les sujets qui concernent le Bassin Minier, et qui est une association État-Région. Donc, c'est important que l'État soit dans le tour de table, puisque l'État est garant du label Patrimoine Mondial, et qui a dans son tour de table tous les acteurs du territoire. Donc les intercommunalités, l'association des communes minières, les deux départements, la région, finalement tous ceux qui ont entre leurs mains l'avenir de ce territoire. Donc, alors les missions ont un peu évolué, aussi bien de la mission que de nous, l'ancienne équipe de BMU, puisque maintenant il s'agit de travailler à comment on fait vivre ce patrimoine au quotidien. Avant on était sur la mobilisation, maintenant on n'est plus sur des questions de médiation, comment on partage cette fierté, comment on partage à la fois cette histoire mais aussi ce patrimoine et comment on le fait redécouvrir. Finalement par les habitants. Il y a toutes les questions de protection, comment aussi ce patrimoine ne va pas disparaître dans les 50 ans, donc comment on travaille avec les communes qui sont les premiers gestionnaires du territoire au quotidien sur la prise en compte du périmètre et de ce patrimoine dans leurs documents d'urbanisme et dans le prévisionnel finalement d'évolution de leur commune. Parce que comme ça a été bien dit dans le film, il ne s'agit pas de transformer le bassin minier en musée en plein air, mais bien dans son évolution, de tenir compte de ses qualités patrimoniales et architecturales. Donc c'est tout ce travail-là qui est devant nous. Et puis l'arrivée du Louvre a accéléré la prise en compte sur le plan du tourisme, de cet arrière-plan finalement du Louvre-Lens qu'est le bassin minier. Et donc comment on donne envie aux visiteurs du Louvre-Lens de venir découvrir ce bassin minier inscrit au patrimoine mondial. Donc on a bien encore pour 10 ans de travail, il n'y a pas de problème.
Je vous remercie. C'était Catherine Aumiel, directrice de l'association Bassin Minier UNESCO. Ce reportage était réalisé par René Lavergne de Radio Campus.